Un débat anime le monde du développement mobile depuis plusieurs années, les frameworks multiplateformes sont-ils réellement à la hauteur du code 100% natif? D'un côté, certains restent fidèles aux technologies natives comme Swift ou Xcode, convaincus que ces outils offrent des performances supérieures et une meilleure expérience utilisateur. De l'autre, de plus en plus de développeurs s'orientent vers un framework multiplateforme, séduit par la promesse d'un développement unifié permettant de créer des applications iOS et Android sans se prendre la tête. Des frameworks comme Flutter ont sur le papier de nombreux avantages, permettant de réduire les coûts de développement et de maintenance sans rogner sur l'expérience utilisateur. Cependant, les promesses séduisantes cachent également quelques limites qu'il ne faut pas ignorer. Faut-il encore développer en natif ou peut-on faire entièrement confiance à un framework comme Flutter? C'est à cette épineuse question que nous allons essayer de répondre dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Clément Sauvage, développeur iOS qui n'abandonnerait Xcode pour rien au monde. Salut Clément.
Salut Félix, salut Maxime.
Et je suis également avec Maxime Brito, formateur chez Purple Giraffe, qui a depuis quelques années troqué Xcode et Swift pour Flutter. Salut Maxime.
Salut Félix, salut Clément aussi.
Alors on va commencer de manière simple, est-ce que vous pouvez tous les deux revenir un peu sur votre parcours de développeur?
Alors je m'appelle Clément, j'ai 34 ans, je suis ingénieur, je suis développeur et entrepreneur. J'ai commencé à développer des apps avant l'iPhone, puisque c'était sur iPhone OS SDK. Mmh. Ma première application mobile, en fait, c'était même sur un vieux truc tout pourri qui s'appelle un Palm Zire 72S. Mmh. C'était une époque que je ne souhaite à personne, c'était un vrai enfer. Et j'ai découvert le monde d'Apple, j'ai découvert l'iPhone, j'ai découvert tous ces merveilleux outils qui sont à notre disposition. Et depuis maintenant, quasiment 19 ans, je n'ai jamais arrêté.
Ok.
Eh bien, c'est intéressant, on a un parcours qui est quand même assez similaire tous les deux. J'ai moi aussi commencé sur les technos d'Apple avant le Swift, comme toi. J'étais étudiant en école d'ingé, on faisait plein de langages différents. Et puis Apple a sorti l'App Store, j'étais aux États-Unis à cette époque-là. Et donc je me suis mis à l'Objectif-C parce que j'étais vraiment à fond. Comme beaucoup d'entre nous, j'adore la marque Apple, j'adore les produits qu'ils font. Et donc, je me suis spécialisé assez rapidement sur l'Objectif-C en essayant de créer les premières applications de l'App Store. Mmh. Et voilà, puis finalement, j'en ai fait mon métier. Et puis, on va venir en discuter par la suite. Mais j'ai découvert ensuite le monde Android avec beaucoup moins de plaisir. Et donc, voilà, il fallait trouver des solutions. C'est pour ça qu'on va discuter de tout ça aujourd'hui.
Ok, ouais. Clément, est-ce que tu as un avis sur l'évolution de Xcode et du Swift? Est-ce que tu penses qu'Apple va dans le bon sens?
Alors, ça dépend de quel côté on se place. Si on se place en termes de l'expérience utilisateur, c'est vrai que Xcode n'a pas beaucoup évolué depuis quelques années. Il y avait aussi de beaucoup, beaucoup de rumeurs autour de l'intelligence artificielle, et on va en reparler, je suppose, au long de ce podcast, ouais. Avec Swift Assist, qui a été un gros flop, en fait, comme l'a été... l'IA avec Siri version 2 qui nous a été promise. Mais en termes de DX et de Developer Experience, on a des outils qui sont formidables, on a des frameworks qui sont extrêmement puissants. Il y a pas mal de critiques qui sont plus autour de la légalité et autour de la réglementation que des frameworks en eux-mêmes. Mmh. Mais on a quand même énormément de possibilités qui nous sont offertes. Et aujourd'hui, si je reprends l'univers startup dans lequel je travaille beaucoup, la moitié, sinon 80% des licornes qu'on a aujourd'hui n'existeraient pas sans les stores applicatifs.
Toi, Maxime, du coup, t'as complètement abandonné Xcode, Swift ?
Oui, quasiment. Oui, bah, ouais. Ouais, si, je l'ai encore, puisqu'on est quand même avec Flutter, on est obligé d'utiliser Xcode de temps en temps pour la publication dans certains cas, certains réglages de projets. Mais sinon, je ne m'en sers presque plus.
Ok, et donc tu suis quand même le développement et tout ? Tu penses que ça avance bien ?
Ah oui, bien sûr, je suis le développement. Je trouve quand même, alors j'ai beaucoup aimé Xcode, je l'apprécie beaucoup. Un reproche que je peux faire, c'est le fait qu'il soit un outil fermé. Il a quand même, comme l'a dit Clément, il a quand même beaucoup moins évolué que ce qu'on a pu avoir dans d'autres technos open source.
Ouais.
Et donc ce retard qu'ils ont pris sur l'IA, je pense qu'on peut l'attribuer peut-être à ça, parce que la plupart des outils développeurs, une grosse partie en tout cas des outils développeurs, sont open source. Xcode, c'est un des derniers à ne pas l'être. Et donc du coup, ouais, moi je trouve qu'il a pris du retard. J'étais fan de Xcode pendant des années et en même temps je connaissais que ça. Je connaissais pas que ça, mais je travaillais quasiment que sur ça. Et maintenant que j'ai pu, par la force des choses, travailler avec d'autres outils, finalement il me manque pas tant que ça. Et même, je serais plutôt content de m'en servir moins.
Ça bouge plus vite du côté de Flutter?
Ah oui, mais alors du coup, Flutter, il n'y a pas d'idée de Flutter, mais on peut l'utiliser celui qu'on veut. Moi, j'utilise personnellement Visual Studio Code. J'en ai essayé d'autres, comme Android Studio qui permet de faire la même chose. Je préfère Visual Studio Code, ça bouge énormément. Il y a des mises à jour tous les mois. Tous les mois, on a une mise à jour, quoi qu'il arrive. Et en plus, les différents plugins d'IA qu'on peut rajouter dessus, qui ne sont pas forcément faits par Microsoft, justement. Ni même par l'équipe de Google, ni même par l'équipe de Flutter. Donc finalement, n'importe qui peut rajouter des briques et à l'heure actuelle, ça explose en termes de possibilités sur les outils qu'on va pouvoir utiliser pour créer nos applications et pour coder avec des outils plus modernes. Ce que Apple a plus de difficultés à faire, puisqu'ils sont une seule équipe à tout gérer.
Ou une seule équipe, mais beaucoup plus importante. Après, on est dans un contexte aujourd'hui où l'IA est absolument partout. Et effectivement, comme le soulignait Maxime, on a des IDE, donc Integrated Development Environment, donc les outils qu'on utilise pour développer, qui ont beaucoup d'IA intégrés. On pense à GitHub Copilot, on pense à des logiciels dont vous avez parlé dans vos colonnes, qui sont Cursor ou Tailwind, Tailwind ayant été racheté par OpenAI assez récemment, qui ont, en fait sont des forks de VS Code, qui est un logiciel édité par Microsoft, qui est open source, que tout le monde peut forker, modifier à sa sauce, avec plein de plugins derrière. Et effectivement, comme le souligne Maxime, on a Xcode qui est un peu fermé. Alors, c'est pas très vrai, parce qu'il y a beaucoup de plugins aussi qui sont disponibles, et n'importe quel développeur peut le prendre et adapter son plugin en mettant de l'IA, en mettant ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas fermé. Quand bien même aujourd'hui, c'est aussi ouvert, bon, pas en tant que tel, mais c'est aussi ouvert dans la mesure où il y a des outils qu'on appelle les MCP en termes de dans les outils IA, hein, modèle contexte protocole, qui permettent d'aller brancher OpenAI Codex qui vient de sortir, qui permet de brancher Cloud Code, enfin et tous les outils derrière, donc qui permettent aussi d'intégrer plein d'outils au travers d'un seul.
Et le rythme des mises à jour, par contre, du coup chez Apple, ça se passe comment?
Le rythme des mises à jour d'Xcode suit en fait le rythme des bêtas d'iOS. Donc on est à 5-6 par an puisqu'il y a des SDK qui sont intégrés. D'accord. Des fois, il y a des correctifs qui sont poussés. Et après, ce que Maxime, tu as oublié de souligner, c'est que Swift est open source. Donc il y a aussi la communauté qui contribue à Swift, même si effectivement, il n'y a pas de déploiement aussi fréquent que sur Flutter ou sur React Native. Enfin, que sur Dart plutôt que sur React Native, derrière, on a quand même des mises à jour qui sont assez fréquentes.
Ah oui, alors juste pour répondre, effectivement, tu as raison, mais on parlait d'Xcode, pour moi, ce sont deux sujets complètement différents. J'adore le langage Swift, j'aime beaucoup moins Xcode, et effectivement, ce sont deux. Tu as raison de le souligner, ce sont deux concepts différents.
Pour les auditeurs de Mad Génération, on a effectivement Swift et Swift UI qui sont des langages de programmation, tout comme les Dart, en fait, le langage qu'utilise le framework Flutter, ou comme les React, qui est le langage qu'utilise React Native pour nos applications mobiles. Et derrière, on a les IDE, ce dont je parlais, et Xcode, qui sont en fait des fenêtres dans lesquelles les développeurs vont taper leur code ou demander à ChatGPT d'écrire à leur place.
Ok. Et donc le logiciel Xcode en lui-même, il évolue à quel rythme?
Le logiciel Xcode est un logiciel, comme le souligne Maxime, qui est fermé. Ouais. Donc, de facto, il n'y a que les équipes d'Apple qui le maintiennent. Et ils le maintiennent à un rythme. On a 5 ou 6 versions par an, avec pas des grosses features. En fait, les grosses features d'Xcode arrivent tous les ans en juin avec la WWDC, où j'irai dans 2 semaines et demie maintenant. Parce que, en fait, les nouveautés sont annoncées avec les nouveaux OS.
Ok. Et donc toi, Clément, t'as déjà essayé Flutter?
Alors moi, j'ai pas essayé Flutter. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dessus et je vais faire un petit coucou à Charles-Henri qui se reconnaîtra. C'est pas une technologie qui me fait vibrer énormément, notamment parce qu'en fait, et c'est pas Maxime qui me contredira, quand on fait une application avec Flutter, dans l'application est bundlé le moteur graphique qui s'appelle Skia et qui, de facto, en fait, ajoute facilement 10 ou 15 mégas à l'application. J'avais fait un test, ce qu'on appelle un Hello World chez les développeurs, qui était juste une interface pour tester. L'application SwiftUI pesait, je crois, 2 mégaoctets, l'application Flutter pesait 20 mégas, et l'application React Native en pesait 18.
Ok.
Bon, du coup, ça perdait un peu d'intérêt. Après, je nie pas qu'il peut y avoir des intérêts à développer en Flutter, mais moi, c'est une techno qui me plaît pas.
D'accord.
Elle me plaît pas. Une autre raison aussi, c'est que je suis, comme Maxime, un puriste des technologies Apple, et qu'en fait, Flutter, qui est un framework, dépend du langage Dart, qui est le langage de programmation, qui est écrit par Google. Et là, Maxime, j'attends ton expertise parce que je ne suis pas certain, mais il me semble que Flutter a réellement été conçu à la base pour des applications iOS, pour des applications Android, pardon. Et derrière, il y a plein de choses autour d'iOS qui sont apparues, comme notamment le terme Cupertino, pour avoir des widgets appropriés.
Alors oui, alors finalement, si on rentre dans les détails un petit peu techniques, Flutter a été conçu dès le début pour faire du multiplateforme, ça a été le but de Flutter lorsqu'il a été créé. J'étais pas dans l'équipe de base, donc je pourrais pas te dire vraiment exactement ce qu'il cherchait à faire au début, mais quand il est sorti, ça a toujours été l'objectif de faire une multiplateforme, ça a été un kit multiplateforme. L'idée, c'est que pour les développeurs, pour qu'on puisse avoir un seul code qui fonctionne sur plusieurs plateformes, il faut trouver un moyen ensuite de le convertir. Donc il y a plusieurs stratégies qui ont été faites avec les différents kits multiplateformes. Certaines visaient à convertir vers du Swift, ou alors à beaucoup de kits multiplateformes ont utilisé les technos du web. Flutter, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi celui-ci, parce que toutes les autres, je supportais pas les résultats qu'on pouvait avoir pour l'utilisateur. Flutter, lui, va partir dans la direction du C++. L'idée, c'est de faire un petit peu ce que font les jeux vidéo. Les jeux vidéo vont faire du dessin à l'écran avec un moteur de rendu. Et l'avantage, c'est qu'avec du C++ et un moteur de rendu efficace, on peut avoir de très bonnes performances, ce qu'on n'a pas forcément quand on fait de la traduction HTML qu'on peut avoir dans d'autres kits multiplateformes. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce moteur de rendu qui rajoute du poids, effectivement. Il faut le coder, ce moteur de rendu. Ouais. Sur un petit projet, c'est clairement visible. Quand on parle d'un Hello World qui part de 2 mégas et on rajoute 18 mégas, OK. Par contre, les 18 mégas, ils sont fixes. C'est-à-dire que si j'ai un projet de 50, 100, 200 mégas, comme c'est assez courant peut-être pas 200 mégas, mais il y a beaucoup de projets qui ont un poids conséquent sur des applications réelles. Finalement, le delta de 18 mégas qui se rajoute en fixe sur une application, il est pour moi un peu moins dérangeant. Ta question que tu me posais, c'était pour le... Tu as parlé du langage du Dart et tu disais que Flutter avait été conçu pour Android. Alors, comme il y a un moteur de rendu qui doit tout redessiner, comme un jeu vidéo, hein, comme si vous... N'importe quel jeu vidéo, tous les artefacts graphiques doivent être dessinés, c'est le même principe avec Flutter. Et donc vous avez deux frameworks graphiques, enfin deux styles graphiques pour redessiner les différents boutons, les différents éléments graphiques. Vous avez celui du Material Design d'Android et celui de Cupertino d'Apple. Et alors, sachant que c'est pas Apple qui a fait celui de Cupertino, c'est l'équipe de Flutter qui fait des composants qui ressemblent à ceux d'Apple. Et là, je suis d'accord avec toi, Clément, c'est-à-dire que en termes de ressources allouées aux différents styles graphiques, je suis convaincu, de toute façon on peut voir, il y a beaucoup plus de widgets disponibles sur le Material Design que sur la partie Cupertino. Ils ont fait je dirais pas le minimum, mais en tout cas, il y a la plupart des composants d'Apple, on les retrouve. Ce sont pas ceux d'Apple, mais en tout cas, graphiquement, on a l'impression que ce sont les mêmes. Et par contre, du côté Material Design, si on va dans le style du Material Design, on a beaucoup plus de choix. Ils sont sortis quasiment en même temps, mais il y a beaucoup plus de ressources allouées à la partie Material Design. Est-ce que c'est un problème? Après, le principal inconvénient qu'on va avoir en tant que développeur, on y viendra peut-être après, c'est que généralement, on va choisir un design et s'y coller. On pourrait faire des ifs partout et faire des interfaces radicalement différentes et utiliser Cupertino pour la partie iOS et Material pour la partie Android. Mais là, du coup, on retombe dans l'inconvénient de redévelopper deux fois ce qu'on cherche à éviter au maximum. Donc, on le fait de façon sélective pour essayer au maximum de mutualiser le temps de développement et de pouvoir, sur le même temps de développement, développer plus de fonctionnalités pour les utilisateurs. C'est un petit peu l'idée.
Bah là, tu vois, je suis assez... Bon, après, on est ici pour débattre, hein, mais je ne suis pas d'accord avec toi que de te dire que dans une application qui fait 100 mégaoctets, 20 mégaoctets, c'est rien du tout, en fait. On parle de 20% du poids de l'application. Et il y a très peu d'applications qui font 100 mégaoctets. Si je prends les 4 dernières applications qui sont full-fledged, avec des appels réseau, des assets et compagnie dans tous les sens, si je prends la dernière qui s'appelle Leadstar que j'ai faite pour une cliente qui est un coaching AI, où il y a énormément de choses dedans, il y a plein d'assets, il y a plein d'images, l'application, elle fait sur le Mac App Store, elle est dessinée, elle est écrite à 68 mégaoctets. Ajouter oui, ben voilà, un tiers 68, du poids, ouais. C'est monstrueux, ajouter un tiers du poids. Si je l'avais fait dans cette technologie-là, l'application aurait fait 80 mégas.
Oui, mais elle fait 20 mégas de plus. On part d'une application, pas d'un site web, on la retélécharge pas à chaque fois, on la télécharge une fois et on la garde dans son téléphone. 20 mégas. Alors, si on part du temps, quelle va être la conséquence vraiment pour l'utilisateur? C'est quoi? C'est quelques secondes de plus de téléchargement? 20 mégas avec des connexions actuelles, c'est pas, même pas quelques secondes, ça va être une ou deux secondes de plus au téléchargement et ensuite au stockage. Est-ce que ce sont ces 20 mégas de chaque application qu'on va installer qui vont faire une grosse différence sur le stockage du téléphone? Enfin, je suis d'accord avec toi que c'est que 20% ou 30% du poids de l'application, ça peut paraître important si tu te bases sur des applications qui font 60 ou 70 mégas. Mais la conséquence pour l'utilisateur final, je trouve qu'elle est négligeable. En tout cas, en tant qu'utilisateur, quand je télécharge des applications, la petite rotation, l'animation qui télécharge des applications, elle est quand même plutôt rapide. Et c'est pas ça qui me... Je préfère ça et avoir une application avec beaucoup plus de fonctionnalités à l'intérieur à la fin. Enfin, en tout cas, En tant que développeur, 20 mégas, ça nous paraît énorme. En tant qu'utilisateur, je pense qu'aucun utilisateur qui n'est pas un développeur verra la différence.
Et après, tu as aussi des sujets sur les temps d'ouverture. Il me semble que les temps d'ouverture, quand tu fais une application qui est hybride cross-platform, le temps d'ouverture est beaucoup plus long, puisque notamment il doit charger tout ce système de ray tracing pour ton moteur Skia, alors que derrière, quand tu fais du natif, l'application se boot en quelques secondes. Il faut savoir que ce temps d'ouverture va également jouer sur toute la partie de App Preview. Pour ceux des auditeurs qui l'ignoreraient, en fait, chaque application qu'on publie, je suis vraiment pas capé sur l'Android, sur le Play Store. Je suis vraiment orienté App Store. Chaque application qui part pour être diffusée publiquement doit être soumise pour validation. Et si l'application ne correspond pas au canon du design d'Apple, ou si l'application n'est pas dans les standards qui le définissent, et ça c'est au bon vouloir de celui qui validera l'application peut être refusée. J'avais lu un article Medium en préparant cette émission qui disait qu'en fait une application Flutter avait été refusée des dizaines de fois, la migration sur SwiftUI avait été prise dès sa soumission parce que elle était beaucoup plus rapide à s'ouvrir.
Alors écoute, je sais pas quel est ce cas particulier là, mais enfin toutes ces applications sur lesquelles j'ai pu travailler, on n'a aucun souci de délai de lancement, ça se lance instantanément. Alors, je ne sais pas ce que faisait la personne au lancement. En fait, tu sais, un bon développeur en Swift ou en Flutter, il pourra la faire lancer instantanément, soit dans l'une, soit dans l'autre. Un mauvais développeur, il pourra très bien faire lancer une application Swift très lentement et avoir les mêmes problèmes de validation d'Apple. J'ai jamais vu, en fait... un lancement qui soit ralenti par le framework lui-même. Le lancement de l'application, il est instantané. Ça marche très bien en Flutter. Alors, je peux pas vous dire sur les autres plateformes parce que j'ai pas testé. Je pense que React Native marche très bien aussi. Du moins qu'on prend des outils de dernière génération. Donc, je vais parler de React Native que je ne connais pas, mais je suis certain qu'en termes de performance, si c'est bien codé, on a des performances très similaires. En termes de lancement, en tout cas, c'est sûr. Et après l'exécution, on est assez proche de ce qu'on peut avoir sur du Swift. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Flutter, ça fait 3 ans que je code avec Flutter. J'ai fait des dizaines d'applications. On n'a aucun souci de validation avec Apple à ce niveau-là. Les soucis qu'on a avec Apple, et c'est ce qui se passe en ce moment et qu'on parle beaucoup dans l'actualité, c'est dès qu'il y a des histoires d'achat in-app et qu'on ne les utilise pas, alors là, oui, ils vont refuser les applications. Si on fait un design horrible, ils la refuseront, je suppose. Mais en tout cas, même avec un style Material Design, une application bien codée, il n'y a aucun souci. En tout cas, les soucis que Apple nous fait sur les validations, je les avais aussi quand je faisais du Swift, parce que j'en ai fait quand même pendant très longtemps du Swift et du natif avec Apple, et j'en ai pas plus depuis que je suis sur Flutter. En tout cas, je ne l'ai pas remarqué. Depuis 3 ans, j'en avais autant avant que maintenant. Apple est très pénible sur la validation. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Tout est relatif. Hein. Mais oui, ils peuvent être casse-pieds. Je vais prendre le dernier cas qui est arrivé pour moi. C'est une application que j'ai faite en mon nom propre, où j'ai repris les API de Mistral pour faire un client natif. Il s'avère que j'avais repris les couleurs de Le Chat, sauf que mon application était 4 fois plus performante puisque native, et c'était pas un wrapper web comme les Le Chat sur iOS et sur Android d'ailleurs. Là derrière, il me l'ont refusé parce que j'avais utilisé les couleurs de Le Chat.
Là, tu as dit un truc intéressant, justement. Tu parles de wrapper web. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, pendant des années, j'ai développé. Donc, parce que les clients me le demandaient, je faisais une version en natif sur Swift. J'adorais ça. Je me forçais, parce que les clients me le demandaient, je faisais une version en natif sur Android parce que j'avais pas le choix. J'adorais pas ça, mais je le faisais. Et je cherchais des kits multiplateformes, mais tout c'était basé sur ces technos du web, ça me rendait fou. C'est horrible. Les performances sur une application multiplateforme avec des technos web, c'est une horreur. Et tous les arguments que tu as aujourd'hui et que la plupart des gens qui ne veulent pas faire multiplateforme ont, je les ai eus pendant des années. J'étais le premier à dire ne prenez pas de multiplateforme, c'est une catastrophe. Parce que c'est les technologies basées sur le web sont très bien pour les navigateurs web, parce que de toute façon on n'a pas le choix, mais quand on passe sur du développement natif, c'est très bien. Par contre, pour moi, le C++, ça reste du développement natif. Après qu'on choisisse un moteur de rendu ou un autre, du moment qu'on est sur du langage natif, je reviens sur Flutter, que je pars du Dart, il est compilé en langage natif, et le moteur de rendu, c'est le C++. Donc finalement, oui, on n'utilise pas le Swift, on n'utilise pas les technos officiels qui ont été faits par le fournisseur de la plateforme, mais par contre, on reste sur du développement qui reste natif, on n'est pas sur du développement avec un pont qui va interpréter, il n'y a pas d'interprète d'ailleurs, on est sur du langage compilé qui va être lu nativement par la machine. Et donc tu vois là ce que tu viens de dire en disant ben oui moi c'est 4 fois plus rapide parce que l'application Mistral utilise un wrapper web, alors je sais pas si c'est vraiment 4 fois plus rapide en termes de mesure, mais c'est sûr que s'ils prennent un navigateur web qui charge à l'intérieur une application en JavaScript, c'est une catastrophe. Et c'est ce que font beaucoup de développeurs web qui veulent faire des applications mobiles et qui ne veulent pas apprendre à développer le mobile comme on a pu le faire toi et moi, et qui du coup prennent des technos multiplateformes web, et ça c'est complètement différent. Parce que finalement, ils remettent un navigateur web, ils remettent un mini Safari autour qui va charger une page. Ça, c'est catastrophique. Et je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Ce genre de choses, pour l'utilisateur, l'expérience est horrible.
Je vais corriger mon propos parce qu'on ne sait pas... On s'est pas entendu. En fait, l'application Le Chat, pour reprendre l'exemple de Mistral, hein, l'application Le Chat est faite en React Native avec Expo. Mais en l'état, j'ai fait mon audit sur les deux. Quand je lance l'application web Le Chat, elle me bouffe 500 mégas de RAM. Quand je lance l'application Le Chat sur mon iPhone, elle fait monter l'appareil en température et derrière consomme aussi de la RAM, mais il y a peut-être une fuite de mémoire liée à React Native. Par contre, l'application native que j'ai faite, qui s'appelle Meo, utilise au pic 40 mégas de RAM.
Oui.
Et là, si effectivement l'argument de la place peut s'entendre, parce qu'effectivement tu l'utilises qu'une seule fois, la RAM, que ce soit sur iPhone ou sur Mac, là a un impact considérable.
Ah, mais je suis d'accord avec toi. Après, honnêtement, faudrait voir le code de l'application Mistral. Je sais pas du tout. Alors, tu dis que c'est du React Native. Je ne connais pas React Native. Je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de le langage, c'est du TypeScript que je crois qu'on utilise en React Native. Voilà. Donc, est-ce que c'est traduit en JavaScript derrière ou autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas un moteur de rendu JavaScript derrière qui fait tourner tout ça? Je suis pas assez spécialiste pour te dire. Je peux parler de ce que je connais, et on n'a pas ce genre de problème-là sur Flutter. J'avais fait une vidéo sur YouTube, puisque j'avais vu un jour quelqu'un qui comparait justement un Hello World ou une petite application très basique, non pas un Hello World, un test de performance sur plusieurs plateformes. Il avait testé Flutter, il avait testé Swift, et une autre, je ne sais plus laquelle. Et en fait, il disait que les résultats étaient impressionnants, c'était genre du x10, ça me paraissait énorme. J'ai dit, waouh, mais j'ai peut-être mal choisi ma techno. Du coup, j'ai refait les tests, et en fait, quand j'ai vu le code qu'il avait pris des deux côtés, et du coup, j'ai fait une vidéo, je ne vais pas rentrer dans cette vidéo, mais si tu as l'occasion, je t'enverrai le lien de cette vidéo où je montre en fait que à l'exécution, au lancement, en taille, il y a des différences, mais elles sont négligeables, et même dans certains résultats, on arrive à inverser la tendance. Parce que finalement, si tu vas dans les forces de comme on est sur deux frameworks en C++ d'un côté et ensuite de l'autre, deux frameworks natifs, t'as toujours des avantages et inconvénients, mais là, encore une fois, on parle d'une application, le chat, où on sait pas comment elle a été codée derrière, donc c'est assez difficile. C'est pas forcément lié à la plateforme qu'ils ont utilisée, et plus peut-être à la façon dont ils l'ont faite, et aux choix techniques qui leur ont été imposés. C'est assez dur. En fait, avec des mauvais outils, on peut faire des super apps, avec des très bons outils, on peut faire des mauvaises apps, et donc c'est assez dur. Prendre un exemple comme ça d'une seule application et dire, enfin voilà, ça me dérange parce que on peut pas trop vraiment savoir, c'est pas du code open source, je suppose, cette application-là.
L'interrogation que je me pose aussi est la suivante. Quid de tous les outils qu'Apple met à notre disposition en termes de framework? Parce qu'en fait, les utilisateurs d'iPhone et les lecteurs de Mac génération le savent, on a HealthKit, on a Apple Pay, on a les achats in-app, on a ce qu'on appelle SharePlay que vous pouvez voir dans Spotify, dans Netflix. Est-ce que ce sont des choses, j'ai déjà ma réponse, hein. Est-ce que ce sont des choses qui sont disponibles nativement chez Flutter, ou est-ce que tu dois attendre que les équipes de Dart et de Google ou de la communauté fournissent ces frameworks, et quid de la maintenance de ces outils en fait? Puisque quand tu travailles en fait avec des technologies natives, Apple te propose les SDK pour iOS 19 pour ce qui va arriver en juin et macOS 10.16, je crois, si je ne dis pas de bêtises, out of the box dès la fin de la keynote. Donc du coup, on peut commencer à adapter nos applications pour les OS qui viendront 3 mois plus tard. Est-ce que tu n'as pas cette limitation, toi, en termes de fonctionnalités? Puisque derrière, il faut que les équipes de Google ou la communauté refassent ces plugins.
En fait, dès que tu veux utiliser du code natif, tu as deux solutions dans Flutter. Soit tu as du. Alors, ce qu'on va faire le plus souvent, ce que tu as mentionné par exemple avec Elskit ou StoreKit ou n'importe quel code natif, API native qui va accéder aux ressources du système, même le GPS, l'appareil photo, tout ça. L'idée, c'est que tu vas coder en Swift ce code-là. Tu vas faire une bibliothèque en Swift. Et là, du coup, tu te retrouves dans Xcode. C'est là, justement, les quelques fois où je suis dans Xcode, c'est quand j'ai besoin de faire appel à ce genre de bibliothèque-là. Donc, tu vas coder le code que tu veux en Swift. Tu utilises les API d'Apple. C'est toi qui vas le faire, finalement. C'est pas un développeur de Flutter qui le fait pour toi. Flutter, c'est juste un moteur de rendu graphique. Et ensuite, eux, ils ont développé un pont qui te permet d'appeler du code natif quand tu en as besoin. Donc, si tu as besoin d'accéder à une API système, par exemple, pour obtenir la position GPS de l'utilisateur, eh bien, tu vas faire un appel en Dart qui appelle une fonction en Swift. Et là, dans ce cas-là, tu as ta bibliothèque Swift que tu as intégrée à ton projet qui va prendre le relais. Et là, finalement, tu l'as codé dans Xcode avec les outils d'Apple et tu vas récupérer exactement les mêmes données que tu aurais eues si tu avais été en Swift. La seule différence, c'est cet appel, en fait, tu bascules pour envoyer vers le code en Swift. Ensuite, tu fais tout ce que tu avais à faire en Swift et quand il a terminé, il te retourne le résultat. Le seul inconvénient que tu vas avoir, c'est que c'est moins pratique puisque du coup, tu perds l'avantage du multiplateforme. Parce que ça, il faudra aussi le faire du côté Android. Si tu veux, en tout cas, si tu as une fonction équivalente sur Android, si elle n'existe pas, ben effectivement, tu vas faire en sorte que dans ton interface graphique, le bouton n'apparaisse que pour les gens qui sont sur iPhone. Mais si la fonction existe des deux côtés, ben tu vas avoir trois codes. Tu auras le code en Dart qui va gérer l'interface graphique, le bouton qui va déclencher ce chargement-là. Ensuite, ça va appeler sur iPhone un code en Swift natif qui va faire l'appel de l'API d'Apple et te retourner le résultat. Et si la personne est sur Android, tu vas avoir un code à faire en Kotlin ou en Java, ça dépend du langage que tu prends. Du coup, une bibliothèque, c'est la même bibliothèque en fait, qui aura un versant en Kotlin pour appeler les API officielles d'Android à ce moment-là pour récupérer la même donnée et la retourner à ton code en Dart. Et ensuite, sur le côté Dart, tu récupères un résultat que tu affiches à l'utilisateur. Donc finalement, ces API-là, je n'ai pas à attendre que Google développe des choses pour moi, puisque finalement, ils ne le feront pas. Google ne font pas ces API-là. Ils font uniquement la partie graphique et le pont qui permet de faire le joint entre les deux. Par contre, effectivement, là où tu as raison, ça vaut souvent le coup d'attendre un petit peu, c'est que comme on a une communauté open source assez importante, il y a toujours une personne qui va le faire ça pour toi. C'est-à-dire que la plupart des API classiques, tu as parlé de StoreKit, alors Eskit, j'ai pas regardé, mais il y a forcément, il doit en exister une, je suppose. La plupart, finalement, des besoins en appel d'API système, ils sont déjà couverts. Certaines bibliothèques, c'est toujours des projets open source séparés de Flutter. Certains sont gérés par l'équipe de Flutter. Je prends l'exemple, je crois que le GPS, c'est l'équipe de Flutter, faut que je ne l'ai pas sous les yeux, mais en fait, tu le vois quand tu récupères des packages, des librairies externes, certaines sont marquées, il y a toujours le nom du développeur, soit c'est l'équipe Flutter.dev, soit c'est Dart.dev, soit après, ça va être des personnes tierces qui vont pouvoir mettre leur bibliothèque. Mais à chaque fois, en fait, du moment que tu as du code natif à exécuter, c'est toujours sous la forme d'une bibliothèque que tu vas intégrer. Donc on n'est pas obligé, on peut potentiellement, dès le mois de juillet, quand il y a les premières bêtas en Swift, tu pourrais le faire. C'est rarement une bonne idée parce que faut être sûr que enfin, voilà, tu vas pas intégrer directement alors que le système sort qu'en septembre. Mais en tout cas, tu peux commencer effectivement à préparer ton code et commencer à développer ta bibliothèque qui va intégrer ton code natif en Swift.
Ce que tu expliques du coup, c'est qu'au final, comme tu dois forcément écrire du code en Swift, il n'y a pas tellement d'intérêt à aller choisir cette place, ce multiplateforme dans la mesure où ben, si derrière tu dois écrire et du Kotlin et du Swift et au-dessus ta couche Dart. Bah, autant faire deux applications, quoi.
Ben non, je suis pas d'accord parce qu'il y a quand même une grosse partie que je peux faire en Dart. Si je fais en sorte que uniquement l'appel d'API d'Apple se fasse et celui du Google se fasse en code natif pour avoir accès à ces ressources-là, j'ai toute la partie graphique, toute ma gestion des données, toute ma validation de données, tout mon code métier, tout ça, je peux le faire une seule fois. Et je l'ai fait pendant des années, de coder deux fois une application parce que des clients, certains clients ne peuvent pas se permettre de dire je l'aurai que sur iPhone. On a des clients, si tu prends le top 50 des applications de l'App Store aujourd'hui, la plupart sont aussi sur Android, parce que ce sont pas que des applications d'indépendants qui se disent moi je développe en Swift et je cherche à gagner de l'argent sur l'App Store. On a aussi beaucoup d'entreprises qui fournissent un service et qui donc ont besoin d'une application cliente, et donc même s'ils gagneront peut-être pas d'argent sur Android parce que les gens vont peut-être pas payer des fonctionnalités, ils sont obligés d'être présents parce que le service dans son ensemble doit être accessible partout. Et donc ça m'est arrivé des tas de fois de coder une application entièrement en Swift, j'étais super content, et après je repars de zéro en Kotlin et je dois la refaire entièrement. Et, ou dans l'autre sens d'ailleurs, on peut faire dans l'autre sens. Et je peux te garantir que si j'avais toute l'interface graphique déjà de prête, la gestion des données, etc., que j'avais que les ponts vers les différentes API spécifiques, c'est un confort énorme. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le saut il y a 3 ans. Parce que j'avais enfin une technologie qui me permettait de faire ça, tout en ayant un résultat final pour l'utilisateur qui était bon.
Je me posais la question justement du résultat pour l'utilisateur. Au niveau du rendu, en passant par Flutter, c'est équivalent au natif, ou il y a une différence?
Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, on est comme dans le cas d'un jeu vidéo. Si, en termes de performance et de rapidité d'animation, c'est équivalent. Alors, je ne pourrais pas te le mesurer à la mi-seconde près, je ne l'ai pas fait. Mais aucun utilisateur qui n'est pas un développeur, il ne verra pas la différence. Si tu prends des composants graphiques qui sont les mêmes, tu prends le style Cupertino sur des applications très très simples, que tu prends que les composants qu'ils ont fournis pour toi, l'utilisateur il le verra pas, il ne verra pas la différence. Un développeur expérimenté qui sait exactement les qui connaît tout parfaitement, qui va chercher le truc, oui, tu peux le voir, mais l'utilisateur il voit pas la différence.
Okay.
Malheureusement, on a même l'utilisateur qui voit pas la différence avec les key multiplateformes web, mais bon. Et voilà, c'est le niveau exigence.
C'est autre chose.
Ça dépend jusqu'où on monte le niveau exigence de l'utilisateur. Mais sur Flutter, en termes de rendu, le résultat de rendu, il est. Mais après, ça va dépendre si elle a été bien codée. Parce qu'on peut, en Flutter, faire n'importe quoi. On peut faire une très mauvaise gestion des données, de la mémoire, recharger, pas utiliser de cache. On est sur une application native, mais on a un développeur derrière. Donc si ça a été très bien codé, il n'y a aucune différence visible de performance de l'un à l'autre.
Okay, ouais.
Est-ce qu'il y a des différences au final? Peut-être qu'il y en a, mais aucune qui soit visible. Si on parle de quelques millisecondes, et je suis même pas sûr qu'elles y soient. Je suis même pas sûr qu'elles y soient sur des applications classiques. Les moments où on peut perdre du temps, c'est justement, tout à l'heure j'en ai parlé, quand on fait ce pont entre le code Dart et le code Swift, là effectivement on va avoir du délai, de la même manière que si on faisait un appel réseau, on va avoir du délai pour passer par le réseau. Alors là, bien sûr, en restant local, c'est beaucoup plus rapide qu'un appel réseau, mais c'est pas aussi rapide qu'un appel de fonction. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire en sorte de limiter au maximum ces API natives, et en tout cas de toute façon, on remarque, j'allais dire ça, mais c'est la même chose en fait. En tant que développeur en Swift, je me rappelle très bien que l'API de GPS, je l'appelais une fois et je gardais en cache mes résultats au maximum pour pas déjà vider la batterie d'utilisateur, parce qu'on sait que ces API systèmes là, elles sont coûteuses. C'est pas pareil que de lire une variable, ça reste une API, un appel d'API système.
Ça dépend du besoin que tu as. Si ton application c'est juste pour récupérer l'adresse de l'utilisateur, effectivement tu mets ton adresse en cache. Par contre, si tu construis une API pour guider l'utilisateur dans le métro ou je ne sais où, là forcément derrière tu dois aller récupérer la position à plus ou moins
bien sûr.
Intervalle. Donc forcément tu peux pas la cacher,
mais ça sera pareil en Swift, ce que je veux dire. Le délai finalement que tu vas avoir de lire tes API système, tu l'auras aussi en Swift, parce que finalement l'appel d'une API système de type accès au GPS, ça fait une lecture de matériel, etc., c'est toujours quelque chose de très lent, en tout cas quand on le compare à de l'animation graphique ou de la lecture de variables classiques, de l'appel de fonction classique. Du moment que tu fais un appel d'API système, que ce soit des user defaults, du réseau, quoi que ce soit, ça va toujours être long. Ça te fait toujours un appel asynchrone, quoi qu'il arrive.
Tu as pas peur qu'à un moment, Flutter et Dart soient un peu mis à la porte par Google, qui aujourd'hui, j'ai vu pas mal d'articles passer sur le côté multiplateforme, sur Compose multiplateforme, Et en plus, il me semble, hein, mais là tu me corrigeras si je me trompe, que Google a dégagé une grosse partie des équipes de Dart il y a un an.
Alors oui, je peux te corriger, non, c'est pas vrai. Pareil, on a fait une vidéo là-dessus, il y a une grosse rumeur justement sur le fait qu'ils avaient réorganisé les équipes. En fait, ils ont réorganisé les équipes, ils ont déplacé des personnes qui sont parties, d'autres qui sont revenues. Je crois que, oh, encore une fois, tu vois, je m'attendais pas, j'ai pas fait la recherche exacte, mais là aussi j'ai une vidéo sur le sujet où ils expliquent concrètement, après qu'il y a eu tout le buzz là-dessus, ils ont expliqué concrètement combien de personnes étaient parties. Je crois qu'au final, sur l'équipe entière, ça représente 2 personnes de moins dans l'équipe. Mais il y en a beaucoup qui ont été déplacées vers une autre équipe. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils ont fait. Enfin, en tout cas, c'était il y a 1 an et demi de ça. Et on n'a vu aucun changement sur le taux de mise à jour, etc. Ça continue à être mis à jour, ça continue à être beaucoup utilisé. Donc, Flutter est 100% actif à l'heure actuelle. Est-ce que j'ai peur que ça disparaisse un jour? Bien sûr, comme n'importe quel kit d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand je faisais du Swift et que je faisais... Tiens, quand je faisais l'Objectif-C, que j'ai dû réapprendre le Swift, ça a été une grosse mise à jour. Quand je suis passé de Swift 1 à Swift 2 et à Swift 3, ça a été une grosse mise à jour. Quand je suis passé... quand on est passé de UIKit à SwiftUI, c'est une grosse mise à jour. De toute façon, on le sait, dans notre métier, ça évolue tout le temps. Et c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Quand je leur dis Flutter, il est génial à l'heure actuelle, c'est celui que je prends maintenant. Mais je me tiens prêt, en fait, si j'ai besoin un jour de changer, je changerai. De toute façon, c'est quand même assez rare qu'on ait des applications, qu'on ait la même application qui s'étende, qu'on maintienne pendant plus de 10 ans. Non, généralement, on fait des nouveaux projets tous les 2-3 ans. Une application, on va la mettre à jour, la mettre à jour, la mettre à jour. Et ce que je sais, c'est que le code actuel que j'ai fait avec Flutter, il sera maintenu pendant un certain nombre d'années sans problème. Si dans 2 ans, Flutter venait à disparaître, ce qui m'étonnerait, parce que ça reste un projet open source, donc même si Google décide de se désengager du projet, le projet pourra continuer parce qu'il y a suffisamment de personnes qui ont investi du temps et de l'argent dedans. En tout cas, il tiendra suffisamment longtemps pour que je puisse continuer à maintenir mes applications actuelles. Et d'ici là, ce sera à moi, en tant que développeur, à me former sur la nouvelle technologie du moment qui sera le meilleur outil que j'aurai moi à ma portée. Je dis toujours, soyez pragmatique et pas dogmatique. C'est-à-dire que si même si ça disparaît pas, mais que demain j'ai un nouvel outil qui me rend ma tâche meilleure pour moi en tant que développeur et pour mes utilisateurs, qui est toujours un très bon résultat, peut-être que c'est moi qui quitterai Flutter avant que Flutter disparaisse. Parce que finalement, j'aurai un meilleur outil, je continuerai à maintenir mes applications en Flutter, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de pont possible d'une technologie à une autre, peu importe la technologie à laquelle on parle. Et je ferai en sorte que mes nouvelles technologies passent sur... que mes nouveaux projets passent sur la nouvelle technologie qui m'intéresse. Comme je l'ai fait avec Swift d'ailleurs. Je maintiens encore des anciens projets en Swift de temps en temps parce que j'ai pas le choix. Mais tous les nouveaux projets que je fais depuis 3 ans maintenant, ils sont en Flutter.
Et là, avec Flutter, est-ce que tu dois faire des compromis par rapport à Swift?
Des compromis à quel niveau?
Je sais pas s'il y a des trucs avec que tu peux pas faire avec Flutter que tu pouvais faire en Swift par exemple, ou qui sont beaucoup plus compliqués.
Ce qui va être le plus compliqué, c'est si on utilise des composants graphiques, parce que tout ce que je vous parlais tout à l'heure sur ce que propose le pont qui est proposé par l'équipe de Flutter pour accéder aux API système, ça marche très bien pour les API de données, ce qui représente 90% des API. Par contre, les API graphiques, si j'ai vraiment besoin d'un composant graphique, soit il faut qu'il soit redessiné par l'équipe de Flutter, jusqu'à présent ils l'ont toujours bien fait, mais si on est sur des composants très spécifiques graphiques, là j'aurai plus de limitations. Je pense par exemple au lecteur vidéo. On a un lecteur vidéo qui est fait avec du code natif en Swift, mais là c'est tellement complexe comme code, refaire un lecteur vidéo, j'ai pas envie moi de le faire, donc je suis dépendant de bibliothèques open source qui font le boulot de refaire le player vidéo. Donc je pense qu'un projet Flutter, c'est intéressant pour beaucoup d'applications, parce que la plupart des applications, ça se résume à tout ce qu'on a discuté depuis le début, faire de l'affichage, des menus, afficher des données qu'on a récupérées d'Internet, des réseaux sociaux, du commerce en ligne, tout ça, on peut le faire sans problème avec des applications Flutter, parce que finalement, c'est que de l'affichage de données très simple. Si par contre, je dois demain créer une application qui serait quasiment que de la lecture vidéo ou uniquement ou un jeu vidéo d'ailleurs, mais dans ce cas-là, je ne prendrai pas Flutter parce que ce ne sera pas le meilleur outil pour ça.
Ouais.
Bah, de toute façon, pour faire un jeu vidéo, au-delà de SimKit et SpriteKit, qui sont 2 outils fournis par Apple pour faire des jeux vidéo respectivement en 3D et en 2D, aujourd'hui, tous les gros jeux vidéo sont faits sur des moteurs comme Unreal Engine ou Unity. Il n'y a pas photo. Maintenant, derrière, tu as le cas où tu as tellement besoin de tellement d'API En interne, alors pour le player vidéo, je te rassure, même quand tu fais du natif, c'est un enfer.
Non, c'est mort sûr.
SwiftUI propose son vidéo player. Derrière, c'est évidemment la frame de la vidéo avec derrière
C'est de la vieille Foundation.
Les trois contrôles, ouais, derrière, si tu veux aller faire de la vidéo poussive, j'irai les sous-titres, la police des sous-titres, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui l'ignorent, en fait, t'as le flux vidéo et t'as le flux de sous-titres qui sont deux choses séparées. Si tu veux commencer à modifier la police, le machin, les sous-titres, c'est un vrai enfer. Il faut passer sur des couches beaucoup plus low level, avec un framework qui s'appelle Audio Video Foundation, AV Foundation, qui est une torture. Qui est une
Ouais,
vraie
c'est ça.
torture.
Qui date de l'objectif C, d'ailleurs, c'est pas un
Qui est
framework
toujours,
Swift.
qui, alors, qui a été porté en Swift, hein, depuis
Ah
3 ans
oui,
maintenant, mais
il a été
effectivement,
porté.
quand on voit le nom des méthodes, donc des fonctions qu'on appelle, c'est des fonctions qui sont très très longues, souvenir de cette belle époque Objective-C.
Voilà, exactement.
Mais
Donc
si
voilà, sur
derrière tu
des
dois aller
API natives.
manipuler, si tu dois aller manipuler du Bluetooth, si tu dois aller manipuler tout ce qui est les live activities, la Dynamic Island des iPhones et compagnie, je reste persuadé que utiliser du natif sera toujours mieux, puisque derrière, tu communiques directement avec le système sans devoir passer par une couche externe. Je ne sais pas si tu as fait des live activities avec tes clients, mais en l'état, j'en ai fait 4 très récemment. C'est 4 lignes de code, quoi. Pas
Alors,
plus.
j'en ai fini il y a très longtemps, mais c'était une extension, non, la Live Activity.
Oui, c'est ça, ce sont
Ah, mais
ce
donc,
sont
du
des.
coup, non, c'est bon, tu peux le faire dans Flutter, parce qu'en fait, tu as ton projet, en fait, quand tu crées un projet Flutter, ça te crée un projet Xcode et un projet Android Studio. Et ensuite, en fait, dans ton projet Xcode, tu peux créer tes extensions. Tu crées tes extensions de notification, tu crées tes extensions de Live Activities, tu crées les extensions en Swift que tu as envie de faire. Et la seule chose que tu dois faire, c'est trouver un moyen de partager les données entre les deux. Donc si, généralement, comme tu dis, c'est 4 lignes de code, donc tu vas pas faire de la manipulation de données intense, ça va être lire et afficher des données très simples, tu peux utiliser n'importe quelle méthode de synchronisation entre ton code Dart et ton code d'extension, puisque de toute façon, l'extension, c'est une application qui se lance de façon indépendante de ton application à toi, donc tu as finalement le même problème, je pense, en Swift pour partager les données. Mais par exemple, si tu... Bon, on prend l'exemple des user default qui est le plus simple. Je peux très bien envoyer des données dans mes user defaults du côté Dart et ensuite dans mon extension aller lire ces données-là pour les afficher. Donc je peux faire des live activities, des notifications avancées avec une interface spéciale de notification, des widgets, tout ce qui est API native, je peux les faire. Puisque de toute façon, là, je vais les faire. Par contre, je les ferai pas en Dart, on est d'accord. Je vais pas les faire en Flutter. Je vais les faire que en Swift, dans ce cas-là, dans Xcode, avec l'extension. Pour ce projet-là, j'aurai mon projet Xcode que je vais ouvrir et je vais aller faire mes extensions. Les quelques lignes, parce que généralement, comme tu dis, les codes d'extension, c'est pas du code très compliqué. Je vais pas m'embêter à essayer de le faire en Flutter. Je gagnerai aucun temps là-dedans. Je vais le faire en Swift. C'est l'avantage d'avoir fait les deux. C'est que
Mais
je
en fait,
peux.
je reste persuadé qu'en fait, Flutter promet meilleur des deux mondes, mais que derrière, le natif évite le pire des deux, en fait.
Ok, bah écoute, je sais pas trop comment te convaincre de plus. En tout cas, de mon côté, je
Ben, en fait,
profite
après,
énormément de...
j'ai envie de dire, ça dépend de la typologie de tes clients. Si je travaille avec beaucoup de startups qui, et ça s'est vu, pas même simplement avec mes applications, mais j'ai tendance à plutôt leur dire, écoutez, effectivement, vous pouvez investir sur du React Native ou sur du Flutter et dire, bon, bah, vous aurez une application sur les deux, mais potentiellement, elle peut ne pas être parfaite sur les deux. J'ai plutôt tendance à leur dire, bah, écoutez, choisissons une plateforme. Alors, généralement, c'est iOS parce que je suis un spécialiste d'iOS et aussi parce que je sais que les gens sur iOS peuvent dépenser plus d'argent que les gens qui sont sur Android pour des raisons géopolitico-économiques, parce que les gens qui sont sur Android ne choisissent pas forcément de facto d'être sur Android. Ils vont aller prendre le premier téléphone que leur donne leur opérateur ou
Bien sûr.
ils vont le choisir, alors que quand quelqu'un qui est sur iPhone, il choisit délibérément d'être sur iPhone. Donc du coup, de facto, je leur dis, bah, écoutez, allez plutôt sur iOS. Je pense que ce sera plus simple pour trouver votre product market fit, donc d'aller chercher en fait la base cliente nécessaire pour prouver qu'il y a une traction qui existe. Et puis derrière, effectivement, ben, on travaille sur une autre version Android s'il y a vraiment un besoin. Après, effectivement, si c'est un besoin business ou derrière où tu travailles pour. D'ailleurs, je crois que c'est la seule application au grand public que je connaisse qui utilise Flutter. Il me semble que c'est BMW. Qui a son application qui est écrite en Flutter.
Une des plus connues en termes d'application Flutter, c'est la nouvelle application de la SNCF, celle qu'ils ont refaite il y a quelques années, la SNCF Connect, elle est faite en Flutter, et c'est quand même une grosse appli. Il y a énormément de choses, énormément d'API, alors on peut lui reprocher des choses, mais en attendant, cette application, moi je la trouve en tant qu'utilisateur, je ressens pas de lenteur en l'utilisant. Quand elle est sortie, ça a été compliqué parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de tout redévelopper par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est toujours la même chose en fait. Quand on réécrit une application en partant de zéro et qu'on met pas tout dès le début, les gens sont pas contents, ce que je comprends tout à fait. Mais je trouve que ce qu'ils ont fait avec une application qui est aussi complexe que ça, c'était un sacré pari finalement à la base de partir sur un kit multiplateforme. Et finalement, on se rend compte que ça marche très bien. En termes de fonctionnalité,
je vais aller en contresens de ce que tu dis. Moi, cette application, genre, on sait pas en termes du X, on sait pas. Après, c'est pas le problème de l'application elle-même.
Bah,
en termes du X, moi, je trouve ça que c'est un enfer. Je trouve que l'application est extrêmement lente.
Non, mais attends,
vraiment,
l'UX, c'est pas le framework. L'UX, c'est le designer. Alors,
on est d'accord. Mais je trouve que l'application est incroyablement lente comparée à Trendline, en fait. Sur le coup, si tu mets les deux sur le même iPhone côte à côte, à titre perso, je trouve que
Trendline, ils ont leur propre serveur et leurs propres API. Trendline, ça n'utilise pas les API de la SNCF.
Pour pouvoir derrière aller réserver de la SNCF, ils l'utilisent peut-être pas frontalement, mais ils utilisent les API de la SNCF.
Est-ce que, c'est toujours pareil, l'API, je sais pas le temps de réponse des serveurs de la SNCF par rapport au temps de réponse des serveurs de Trendline. Je suis pas sûr que les délais d'attente que tu as dans l'application, ils soient pas liés à de l'attente réseau plutôt qu'à de la rapidité d'animation de passer d'un écran à un autre. Parce que finalement, la différence, elle va être là. Est-ce que l'animation pour passer d'un écran à un autre, elle est plus lente sur l'un que sur l'autre? Est-ce qu'elle est perceptible, cette différence? Parce que, en termes, l'utilisateur, ce qu'il attend, on est en 2025, ce qu'on attend en tant qu'utilisateur, c'est toujours des chargements. On attend des chargements de données. C'est-à-dire qu'on appelle toutes nos applications, elles utilisent quasiment que des API maintenant. Donc finalement, tu appuies sur un bouton, ça va appeler un serveur qui va te retourner un résultat et donc tu passes par Internet et t'attends ce résultat-là. Donc le temps de réponse de quand je commande mon billet de train, si j'attends 3 secondes, c'est pas le framework, c'est pas le code qui charge pendant 3 secondes. C'est l'aller-retour entre ton téléphone et le serveur de la SNCF qui te répond. S'il s'avère que Trendline ont leur propre serveur avec peut-être un peu moins d'utilisateurs ou peut-être des plus gros serveurs, je sais pas, et qu'ils ont une réponse plus rapide et donc du coup t'as quelque chose de plus fluide à l'arrivée, c'est pas lié à la techno qui a été utilisée, c'est plus techniquement les contraintes techniques qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a moins de gens sur Trendline que sur SNCF Connect, parce que finalement les gens j'ai utilisé Trendline pendant des années quand ça s'appelait Capitaine Train, j'adorais. Mais je sais que je faisais partie des rares, personne ne connaissait ça. Tous les gens autour de moi, le grand public, ils utilisent le truc. Je vais prendre le train, je prends l'application SNCF. Donc finalement, si les temps de chargement sont plus lents d'un côté que de l'autre, encore une fois, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup à attribuer à la technologie qui a été utilisée pour le développer. C'est peut-être plus le temps d'attente des API système, enfin des API de SNCF, parce que ça ne m'étonnerait pas que ce soit les serveurs de SNCF qui traînent à répondre.
Là, sur le coup, j'ai pas la réponse, mais en l'état, on s'éloigne du sujet Flutter React Native, mais quand tu développes une application de ce gabarit-là, ben tu fais communiquer les équipes produits derrière pour t'assurer que derrière ça se fasse bien. Je connais pas les équipes de SNCF Connect. Je pense savoir que l'application est faite à Nantes, il me semble, ou à Rennes, je sais plus, mais dans l'ouest de la France, pardon. En l'état, ben peu importe le framework, quand tu fais une application de cette envergure-là, tu t'assures que toutes les équipes communiquent ensemble pour avoir une expérience utilisateur incroyable. Point. Après, derrière, que tu utilises Flutter, c'est très bien. Si tu veux utiliser Flutter, ben, j'avoue que effectivement au départ, et moi encore maintenant, j'ai des grosses difficultés à utiliser l'application.
Je voulais vous parler un peu d'IA aussi, parce que c'est vrai qu'Apple, ils ont un peu mis le paquet là-dessus cette année. On en est où de l'intégration de l'IA dans Xcode, Clément?
Tu me dis qu'ils ont beaucoup investi. Bon, d'accord. Écoute, on ne doit pas vivre dans le même monde, mon cher Félix. Blague à part. Alors, l'IA et Apple, c'est une grande discussion. Et j'ai eu même des sons de cloche en interne. Je ne citerai pas les gens pour ne pas leur faire de tort. Mais ça a été, de toute façon, tout le monde l'a vu, un énorme flop.
Ouais.
Ils nous avaient promis un Siri V2. Ben, on attend toujours. Hein.
Oui.
Au-delà d'une jolie animation colorée faite avec métal et les shaders de lumière, c'est un peu problématique. Apple nous avait promis beaucoup de choses autour de Swift Assist, qui était en fait la version vous n'allez plus avoir besoin d'écrire de code, on va l'écrire à votre place. Bon, Sur le coup, j'attends encore. Alors là, en fait, on pourrait faire un podcast rien que sur l'IA dans le code, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures dessus. Il s'avère qu'aujourd'hui, quand on ouvre Xcode, on nous propose de télécharger le modèle qui fait tourner Swift Assist, avec cette petite chose en plus, qui est la promesse que notre code n'est pas envoyé sur Internet, et que du coup reste en local et peut être retravaillé. Tout à l'honneur d'Apple. Sur le coup, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, c'est un peu une catastrophe. Je vais être tout à fait franc avec toi. Quand tu tapes une variable, le Xcode te propose d'auto-compléter avec une variable qui n'existe pas.
Ok. Ouais.
C'est assez fun. On
Bah
va
c'est
dire ça
dingue
comme
qu'ils
ça.
soient à ce point-là en retard parce que c'est... Enfin, il y a
Ils
d'autres
sont
trucs de concurrents qui sont...
très en retard.
Ouais.
Encore une fois, bon, on enregistre le 19 mai, le podcast sortirait vraisemblablement le 21. La WWDC arrive dans une quinzaine de jours. J'espère qu'il y aura des grosses annonces et que y a des gens qui seront pris des fessées, voire plus, parce que c'était un peu pénible cette année sur le sujet de l'IA. Quand on voit que des boîtes comme OpenAI avec Codex ou Anthropic avec Claude Code nous sortent des choses qui sont absolument hallucinantes. Aujourd'hui, fondamentalement, on peut écrire des applications iOS natives avec ce OpenAI Codex ou avec ce Claude Code. Pour les auditeurs, ces deux outils que je mentionne sont des outils en fait en ligne de commande, donc dans l'espèce de fenêtre des hackers là, dans un terminal, qui interagit avec votre code et qui pourrait en fait réécrire du code à votre place. Aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire avec notamment ChatGPT, c'est de travailler, de connecter ChatGPT et Xcode pour que les fichiers puissent plus ou moins travailler ensemble. Maintenant,
C'est-à-dire, attends, je te coupe. Comment tu connectes ChatGPT avec Xcode?
alors quand tu ouvres Xcode et quand tu ouvres ChatGPT, tu as dans ChatGPT un petit truc qui s'appelle Work with Xcode, où derrière en fait tu vas pouvoir Xcode va pouvoir ChatGPT va pouvoir globalement interagir avec ton code. Il va au moins pouvoir le lire. Il va pas pouvoir écrire directement dedans, mais il va pouvoir le lire et tu vas pouvoir poser des questions, interagir avec. J'ai pas encore pu tester OpenAI Codex parce que c'est un outil qui est réservé aux équipes entreprises
France.
et pro. Parce que moi je suis sur plus, je paye 20 euros par mois. Claude Code, je l'ai testé et ça c'est incroyable. Par contre, j'attends le retour de Codex, qui est leur nouvel outil agentique qui permettrait d'écrire du code et ne plus avoir de besoin de développeur. Maintenant, je pense que côté Flutter, et là je vais laisser Maxime la parole, mais comme on choisit notre IDE, ben, on peut aller, comme tu le disais au début du podcast, aller sur VS Code, connecter nos outils d'IA, ou aller sur Tailwind, ou aller sur Cursor, et avoir l'IA d'intégrer comme ça, quoi.
Effectivement, moi ça fait. Alors, j'ai commencé avec Copilot il y a plus d'un an de ça. Effectivement, ça change la vie. Donc, Copilot, c'est un peu Swift Assist qui a été créé par GitHub, qui existe aussi, je crois qu'on peut l'avoir aussi dans Xcode. Donc, c'est un plugin qui va analyser ce qu'on est en train de coder et qui nous fait une compilation automatique. Mais pour ceux qui connaissent la compilation automatique en tant que programmeur, normalement, ça consiste à terminer le nom de la variable ou terminer le nom de la fonction, trouver la liste des fonctions dans un objet qu'on va appeler. Là, l'idée, c'est qu'avec Copilot, il nous propose, au lieu de finir la ligne, il nous propose les 15 prochaines lignes. Et en fait, il va regarder ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a tapé sur les dernières lignes, quels sont les fichiers ouverts, les différents onglets ouverts dans l'IDE. Il arrive à créer un contexte de ce qu'on est en train de faire. Et donc, généralement, ce qu'il propose est assez efficace. Je m'en suis servi pendant très longtemps. Là, j'ai commencé à tester Cursor depuis 2 mois, pour voir ce qu'il y a d'intéressant dedans. Donc, oui, effectivement, avec des outils comme Flutter, puisqu'on utilise VS Code, qui est un peu l'IDE à la mode depuis pas mal d'années. Qui est open source, qui peut marcher avec n'importe quel langage, on a tous les plugins qui sont disponibles et même de l'IA en local. Si on veut pas justement utiliser des services payants où on envoie notre code source, on peut installer, le plus connu c'est Olama, qui permet ensuite, donc qui est un outil qu'on va installer sur notre ordinateur, et ensuite on choisit les modèles open source que l'on veut et on a un plugin, il y en a même plusieurs d'ailleurs qu'on peut choisir, dans VS Code pour relier ce moteur d'IA local pour faire la même chose que ce que ferait Copilot. Ou Cursor ou n'importe quel IDE, enfin, outil d'IA propriétaire qui est en ligne à l'heure actuelle, on peut le faire en local avec ce genre d'outil. Et l'avantage justement, c'est qu'on n'a pas à attendre que Apple l'ajoute ou même Microsoft dans VS Code, puisque finalement ce sont des plugins et c'est de l'open source, donc ça bouge tout le temps.
tous les mois, on peut essayer, même je dis tous les mois, en ce moment c'est toutes les semaines, on peut essayer un nouvel outil si on a envie, pour voir si ça nous fait gagner du temps ou pas.
Ok.
Et ça nous en fait gagner énormément. Ouais. Ça demande de l'efficacité en tant que programmeur, de ne pas faire n'importe quoi. Ça demande des compétences réelles pour savoir le faire bien. Mais quand on le fait bien, on gagne énormément de temps. Vraiment.
Ici, il y a une vraie différence entre ce qu'on lit et ce qui est un peu la vibe autour de l'IA, qui est le vibe coding, et le coding assisté par IA. Le vibe coding, c'est typiquement, je prends mon chat GPT, je lui dis « fais-moi une application qui fait ça, on appuie sur « entrée ». N'importe qui a des mains et qui a un abonnement de chat GPT peut le faire. Il peut potentiellement copier-coller du code dans le chat GPT, dans le chat GPT et dans Xcode, et voir que l'application fonctionne. Par contre, derrière, monter une application, faire qu'une application soit scalable, donc puisse assumer 10 utilisateurs comme 100 000, là, il faudrait des vraies compétences et on peut pas se... Je pense pas que, à mon sens, hein, c'est pas le cas aujourd'hui, on peut pas dire qu'une IA peut écrire une application scalable telle que Spotify ou autre. Alors, si c'est écrire un gestionnaire comme d'une to-do list, oui, ça, il y a pas de sujet. Mais par contre, derrière, effectivement, l'IA en tant que telle aide les développeurs. On n'est pas encore au niveau dans Xcode, malheureusement, mais ça, ce sont des outils propres développeurs, en fait, et pas, donc peuvent améliorer la vélocité du développeur sans avoir d'impact sur l'utilisateur final, puisqu'on ne parle pas d'IA dans les applications, et ça, c'est un tout autre sujet.
On a trouvé un point sur lequel on est d'accord, clairement. le vibe coding, bon, je trouve que ça a quand même un véritable intérêt. Ça permet à des personnes qui ne savent pas programmer de découvrir finalement le monde de la programmation et potentiellement de créer des premières applications très basiques et se mettre un petit peu la main dans l'engrenage et commencer à créer des choses. Un petit peu comme le no-code, en fait. Pour moi, je vois le vibe coding un petit peu comme le no-code. Ça permet à des gens qui ne sont pas des développeurs de créer des projets, de lancer des projets, qui n'auraient pas eu déjà le temps d'apprendre à développer ou le budget d'engager des développeurs pour créer des applications pour eux. Donc, ils peuvent se lancer, ils peuvent créer des choses. Et ensuite, une fois, si ce qu'ils ont lancé venait à marcher, ils vont vite atteindre les limites de l'outil, que ce soit du no-code, où on se retrouve bloqué par une plateforme, où on se retrouve vraiment limité, ou alors le vibe coding, où plus le projet grossit, et plus ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que dès qu'on sort de la démo, comme tu disais, la to-do list, ou même des applications un peu avancées, disons que on peut assez rapidement faire des applications qui ont de la gueule avec du vibe coding. Derrière, c'est une catastrophe, mais on le voit pas. Mmh. Et c'est quand on commence à avoir des problèmes et que l'application grossit, qu'on essaie de le corriger, qu'en corrigeant un problème, ça en recrée d'autres ailleurs. C'est là finalement qu'on se rend compte. On voit les limites des outils d'IA actuels qui sont pas capables de connaître l'ensemble du projet et d'avoir une réflexion d'ensemble qui vont faire de la réflexion sur chaque tâche, de façon isolée et qui vont ensuite les coller ensemble les unes à côté des autres, on retrouve des duplications. Moi, je le vois en fait, mes outils d'IA comme par exemple Cursor, qui est l'outil le plus à la mode à l'heure actuelle, qui permet de faire gagner beaucoup de temps. Si on ne le surveille pas, combien de fois il duplique des fonctions qui sont déjà présentes dans le projet, je lui crée des tas de règles, etc., pour faire en sorte de lui montrer ce qu'il est censé faire, mais au bout d'un moment, il fait quand même des erreurs. Et c'est comme si on avait 10 développeurs juniors qui étaient séparés et qui devaient travailler sur le même projet sans se connaître, sans guide, sans aucun moyen de mettre les choses en commun, et chacun rajoute du code. Et chaque tâche qu'on lance, c'est un petit peu ça avec l'IA. Donc ça marche sur des petits projets, parce qu'il arrive à avoir des petits projets, mais dès que le projet devient gros, c'est là qu'il s'en sort plus et on s'en rend pas forcément compte. Okay. Donc le vibe coding, ça a un intérêt pour permettre aux gens de débuter et de créer des applications et de lancer des petites applications. Et ensuite, soit les outils évolueront d'ici là et on n'aura plus ces problèmes-là, soit si le projet devient valide, financièrement en tout cas, c'est là que ça vaut le coup d'investir du temps et potentiellement de l'argent dans le développement par des développeurs qui utilisent ce genre d'outils pour être plus efficaces et du coup facturer quand même moins cher, et avoir le meilleur des deux mondes finalement.
Ouais. Alors facturer moins cher ou être plus pro-efficient et faire plus vite? Parce que donc au final le travail revient moins cher, mais c'est deux discours différents. Il y a un discours où le développeur facture 300 euros par jour parce qu'il dit j'utilise l'IA, et un autre développeur qui a plus d'expérience qui va facturer 500, 600, 700, 800 et qui va dire j'ai une plus grande vélocité que des juniors et j'ai une encore plus grande vélocité avec l'intelligence artificielle.
Après on facture des fonctionnalités, donc finalement le développeur expérimenté il faudra qu'un jour ou deux pour faire des choses, et qu'un développeur junior il en faudra 6 ou 7, donc finalement le prix à la fin va rester similaire, normalement à peu près.
Oui, d'accord.
Et donc du coup si l'outil te donne plus de vélocité, le prix final
parce que l'utilisateur, il vient, enfin, le client, pardon, vient te voir en te disant, j'ai besoin de telle fonctionnalité, une liste de fonctionnalités. Et donc, si on va plus vite pour les créer grâce à ces outils-là, le prix final devrait être inférieur normalement. En tout cas, je me rends compte, moi, que les devis que je fais depuis quelques années sont à fonctionner. Si je, en fait, les gens demandent de plus en plus de choses, donc finalement, les prix ils baissent pas. Mais si on regardait ce qu'on me demandait il y a 10 ans, ou il y a 5 ans même, il y a juste avant qu'on fasse, il y a 3 ans, si on me demande la même chose maintenant, je le ferai plus rapidement, donc je facturerai moins maintenant. Surtout qu'en plus, maintenant, j'ai plus besoin de le faire deux fois. Ça, c'est une autre question, justement, entre le multiplateforme et l'autre. Mais bon.
Et donc, sans parler d'IA, pour un développeur débutant, par exemple, vous lui recommanderiez plutôt de passer sur le natif ou plutôt sur Flutter ?
Lequel est le plus accessible ? Deux discours différents.
Oui, je me doute, mais...
que Maxime a soulevé, et qui est intéressant, mais c'est vrai dans toutes les technologies hybrides, c'est qu'à partir du moment où tu as besoin de fonctionnalités un petit peu plus poussives, je pense à, alors Maxime, là je parle sous ta couverture, je pense qu'il est très difficile, voire impossible de faire des applications Vision OS aujourd'hui avec du Flutter. Apple TV,
probablement.
Apple TV, je sais pas. Alors les deux marchés sont assez faibles, hein, mais bon, c'est toujours un plus d'avoir ces plateformes. En fait, ma philosophie des choses, c'est que à faire tout, on est moins bon à faire beaucoup qu'à faire une seule plateforme. Je n'irai jamais vendre à un client une application Android. Si une application Android, si le client veut absolument une application Android, et ça arrive, je vais aller lui recommander quelqu'un de mon réseau. Parce que je sais qu'il ne fait que ça et qu'il est extrêmement bon dans ce qu'il fait, parce que ça fait 10-15 ans qu'il ne fait que ça. De la même façon où ces gens qui sont sur Android vont m'envoyer des clients parce qu'ils savent que je fais que de l'iOS, je fais un peu de web aussi, mais c'est un peu plus annexe, parce que je ne fais que ça depuis des années. Et je suis extrêmement véloce sur ces plateformes, et je sais, je peux vendre à mes clients que je peux sortir une application de zéro, incluant la partie serveur, à 1 en 3 mois. Je sors ainsi 3, 4, 5 MVP par an, parce que j'ai la vélocité, parce que j'ai les outils, parce que j'ai la connaissance du framework, et que j'ai aussi les outils IA qui me permettent d'aller beaucoup plus vite dans certaines fonctions. Par exemple, écrire des listes de... Je vais vous prendre un seul exemple. Quand on doit écrire des listes de pays, qu'on veut un petit sélecteur avec la liste de tous les pays. Ouais. Aujourd'hui, on demande à l'IA, fais-moi une liste de tous les pays avec leur petit drapeau. On appuie sur Entrée, en l'espace de 30 secondes, on a toute la liste. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais aller taper une liste de 196 pays, c'est un peu rébarbatif. Ouais. Maintenant, du coup, est-ce qu'il faut aller sur du natif ou du cross-platform ? J'ai envie de dire, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu penses que le cross-platform est mieux pour toi, bah, j'ai envie de dire go. Mais moi, je vais continuer à penser que l'App Store et la review, c'est un peu le physio. En boîte de nuit à Cannes. C'est le sujet, on est en plein festival. Si tu arrives avec ton application native qui est dans les canons d'iOS, qui utilise les dernières technologies, qui utilise tous les petits widgets et compagnie, qui est rapide, très bien. Dans ces cas-là, tu vas passer. Pour moi, si tu arrives déguisé avec du Flutter ou du React Native, où tu peux avoir des junk, où tu peux avoir de petites saccades de temps en temps, où derrière le texte ne va pas être rendu, Maxime, tu me confirmeras, mais je crois que le texte passe à travers de votre moteur et n'est pas au travers de Cortex. Donc, je crois que tu peux avoir des problèmes de ligature, des problèmes de fonte qui sont pas exactement identiques à ce que tu souhaitais. Du coup, tu viens un peu déguisé devant le physio et te dis, toi, tu dégages, quoi.
Mais enfin, honnêtement, je sens que c'est un point qui t'inquiète, la validation Apple, mais vraiment là-dessus, je te jure qu'il n'y a aucun souci. Apple a accepté des applications catastrophiques qui sont faites dans des frameworks bien, bien plus mauvais que ça. Enfin, on a tous vu des applications horribles sur l'App Store qui sont validées. En fait, Apple, pour refuser une application, il faut qu'ils aient quand même eu quelque chose à justifier. S'il y a vraiment un bug visible, oui, ils te le diront, tant mieux. Moi, je préfère, si vraiment ils ont vu un bug que j'avais pas vu, qu'ils me le disent, que je le corrige, oui. Maintenant, juste le fait d'utiliser un framework multiplateforme n'empêche pas Apple de valider l'application. Faut vraiment pas s'inquiéter avec ça. J'ai jamais eu de souci d'Apple qui refusait une application parce qu'elle était faite avec Flutter. Il y a eu une époque au tout début, à l'époque de Steve Jobs, au tout début de l'App Store, quand il y avait les premiers frameworks multiplateformes, où ils avaient sorti une règle qui ressemble à ça en disant les générateurs d'app sont interdits. Finalement, ils ont lâché cette règle, elle n'existe plus. Mais ça pouvait se valider, c'est toujours pareil, c'était plus une question de, on veut que vous utilisiez nos outils et pas d'autres outils, et c'est pour ça qu'il avait, et puis aussi le résultat était tellement horrible, ce qui se faisait à l'époque avec ces outils-là, mais aujourd'hui on a vraiment un résultat final qui est, enfin,
il n'y a que les spécialistes qui verront la différence. Des utilisateurs ne la verront pas. Et donc, Apple, ce qu'ils veulent, c'est avoir une bonne expérience utilisateur. C'est-à-dire que l'application fonctionne bien. Et malgré tout, ils acceptent des applications qui sont très mal codées. Et même des fois en Swift, d'ailleurs, encore une fois, je reviens à la compétence des gens qui font les applications. On a des personnes. Toi, tu es un spécialiste, un expert, tu fais des super apps. Tu as des développeurs qui font du Swift, qui vont faire du Swift de mauvaise qualité, et des applications très moches, pas du tout ergonomique, et Apple les acceptera aussi. Et des fois, ils les refuseront, même s'ils ont utilisé les techno Apple. Parce que finalement, c'est pas la techno qui a été utilisée pour faire l'outil qui va faire que Apple va accepter. C'est est-ce que le résultat final de l'application sera agréable à utiliser par l'utilisateur. Et je peux te garantir qu'en le faisant avec Flutter, et je pense avec d'autres, mais je ne veux pas m'avancer sur les autres parce que je ne les connais pas. Mais en tout cas, avec Flutter, le résultat final, il est très très bon. L'utilisateur ne verra pas la différence. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, Félix, pour les utilisateurs, quelqu'un qui commencerait maintenant, je suis quand même assez d'accord avec ce qu'a dit Clément, ça dépend ce que tu veux faire. Il y a quand même vraiment... On peut avoir une véritable appétence pour ce que propose Apple en disant... Je suis fan d'Apple, je veux me spécialiser et être un expert dans ce langage-là. Si vraiment c'est mon but d'être un expert en technologie Apple, oui, autant partir sur Swift. J'avais quand même un doute sur ta question, si tu parlais aussi des outils d'IA ou si tu parlais vraiment de la plateforme, Félix.
Je parlais aussi de l'accessibilité au niveau de qu'est-ce qui serait le plus simple aussi, peut-être.
D'accord. Donc, en tout cas, quelqu'un qui veut vraiment, qui est fan d'Apple et qui veut se spécialiser, être un expert en technologie Apple, il y aura tout le temps du travail dans ce domaine-là, parce que effectivement, Apple a une aura et une valeur qui fait que il y a des gens qui sont prêts, mais comme le dit Clément, à payer deux fois le développement pour avoir la qualité maximum sur la plateforme d'Apple et aussi des fois sur la plateforme de Google. Et donc, il y aura toujours du travail. Donc, si vraiment c'est quelque chose qui plaît à un nouveau développeur, pourquoi pas? J'ai aucun souci avec ça, je l'ai fait, ça s'est très bien passé pour moi, et je pense que quelqu'un à l'heure actuelle peut encore le faire, c'est tout à fait valide. Pour ce qui est de l'IA pour un jeune développeur, je pense qu'il faut s'en servir, je pense qu'il faut apprendre à s'en servir, mais il faut, en tout cas, les outils de la génération actuelle, il faut comprendre comment fonctionne le code. On ne peut pas juste demander à des outils du code à notre place parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Et donc, c'est super important pour faire la différence entre... Si je me forme aujourd'hui, mon but, c'est d'être parmi les meilleurs. Et donc, si je veux être parmi les meilleurs, je ne vais pas faire comme les autres de juste utiliser les outils d'IA qui vont tout faire à ma place. Je vais savoir coder, je vais apprendre vraiment à bien coder et j'utiliserai les outils d'IA pour augmenter mes performances. Mais je comprendrai, je vais garder le contrôle sur l'outil, sur le code final. Ce n'est pas l'IA qui décide ce qui sort, c'est moi. Et donc, je dois comprendre ce qui se passe. Et donc, au final... En termes de plateforme, donc si vous êtes un fan d'Apple, oui, allez-y, partez à fond sur Apple, sur le Swift, ça se passera bien pour vous parce qu'il y a du travail. Si par contre, votre but, c'est d'avoir le plus de missions possible et peut-être de vous faire embaucher quelque part et que vous êtes pas, enfin, vous aimez Apple, mais ce n'est pas crucial pour vous, vous pouvez très bien avoir une carrière super intéressante. Ça peut être Flutter, ça peut être React Native. Je pense qu'en tant que développeur, si vous savez programmer et si vous arrivez à apprendre des bonnes compétences transversales de programmation sur comment faire du code de qualité dans n'importe quel langage, finalement, parce que finalement les langages se ressemblent tous, et la question c'est quel framework j'utilise en ce moment parce que c'est celui qui me rend le plus service en ce moment, je pense qu'elle est là la question. Un jeune qui se lance maintenant, il faut qu'il sache bien programmer avec, qu'il comprenne les notions transversales qu'il y a entre tous les langages, et ça lui permettra de commencer peut-être avec du Swift, de basculer plus tard sur le truc qu'il y aura après Swift, que Apple va sortir. Ou peut-être qu'il va commencer avec Flutter maintenant, et qu'après il passera sur du Kotlin, parce que il s'avère que peut-être dans 2 ans, Kotlin multiplateforme sera bien meilleur que tous les autres. En fait, voilà, je vois les choses en me disant... Toutes ces frameworks, ces plateformes sont des outils, il y en a des nouveaux qui sortent régulièrement, et si je dois être un bon développeur, il faut que je prenne le meilleur outil pour réaliser ce que j'ai besoin de faire. Il s'avère que pour moi, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est Flutter, parce qu'il me permet, avec un seul code, d'avoir plusieurs plateformes. Mais je ne suis pas fermé à l'idée de je ne voue pas une religion à l'équipe de Flutter. S'il s'avère qu'il y a un nouvel outil qui sera mieux pour moi dans quelques années, eh bien je partirai sur ce nouvel outil-là. Et si ça se trouve, ce sera peut-être Apple qui va faire en sorte qu'avec le Swift, on puisse faire du vrai multiplateforme à ce moment-là. Ça m'étonnerait parce que c'est pas dans leur stratégie à l'heure actuelle, mais peut-être qu'ils changeront de stratégie et qu'ils partiront dans cette direction-là. Et je serai le premier à dire, mais on fait du Swift maintenant. Parce que finalement, c'est ce qui me rendra le plus service, c'est ce qui sera le plus logique dans l'évolution de ma productivité, finalement.
Je pense que, pour reprendre ce que tu disais sur les générateurs d'app, je pense pas que ce soit lié aux plateformes web et compagnie, parce que de toute façon Apple dans ses règles avait et a toujours le fait qu'une application ne doit pas être un site web encapsulé. C'est dans les règles de validation d'Apple, il y a toujours ça doit c'est votre application doit apporter une plus-value comparée à une web app. Ça il y a pas de question là-dessus. Je pense que ce que disait Steve Jobs, j'ai eu pas mal de clients qui se sont pris les pieds dans le tapis, parce qu'au final, faire une application, ça reste quand même assez dispendieux, hein, quand on est une startup ou même un grand groupe. C'est tous ces services qui vous proposent de faire des applications en no-code, où les applications, en fait, elles se ressemblent toutes, elles ont toutes les mêmes logos, elles ont toutes les mêmes features, où c'est juste un flux RSS qui s'actualise à partir de leur back-end. Je pense que c'est plus ça que la technologie multiplateforme, comme tu le disais. Parce qu'après, effectivement, c'est les solutions dont tu parlais. Je vais faire un peu de name dropping, pardon. L'une des plateformes que tu citais pour pouvoir encapsuler un site web dans une application iOS ou Android, hein, s'appelait Cordova. Ça existe toujours d'ailleurs. Ou derrière, c'est un site web, quoi. On appuie sur le bouton et ça met un Safari avec une petite icône. Vous faites une progressive web app, ça marche tout aussi bien. Bref, concernant...
Mais ça marche. Pas tout aussi bien, c'est horrible, mais ça marche.
Ça marche, c'est horrible, mais ça marche.
Voilà, ouais, d'accord.
Concernant maintenant l'IA, c'est un vrai sujet et je serais ravi d'en reparler dans un autre podcast, mais en fait, on arrive à un tournant de ce qu'est le métier de développeur. Pas encore aujourd'hui, mais je pense que d'ici 2 à 3 ans, on va avoir vraiment un vrai tournant avec l'amélioration de tous les modèles, que ce soit des modèles open source, Llama chez Facebook, ChatGPT d'OpenAI ou les modèles Claude d'Anthropic. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, aujourd'hui, quand on leur soumet des codebases qui sont assez larges, on va avoir pas mal d'hallucinations. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le métier de développeur va changer. Les développeurs seniors vont toujours avoir du travail s'ils se mettent à l'IA pour accélérer leur vélocité, pardon, et les développeurs juniors vont avoir besoin de l'IA pour monter très vite en compétences. Et au milieu, on va se retrouver avec des développeurs qui, et ça se voit sur LinkedIn tous les jours, quand je commence à parler de Cursor ou de Tailwind dans mes posts, j'ai toujours 2 ou 3 développeurs qui ont une cinquantaine d'années qui me disent « mais jamais j'irai toucher là-dedans, c'est de la M ». Derrière ça envoie mon code je sais trop où et ils ont peut-être ou pas raison, mais c'est des gens qui seront à retraite dans 5 ans, donc on s'en fout, ou plus, s'ils peuvent partir en retraite, mais ça c'est encore un autre sujet. En l'état, si les développeurs ne prennent pas le tournant de l'IA maintenant, ils vont être largués, de la même façon que les gens il y a 15 ans qui ne se sont pas mis à l'informatique, ou 20 ans, sont aujourd'hui victimes de l'électronisme. Parce qu'aujourd'hui, on réserve nos vacances par Internet, on paye nos impôts par Internet, malheureusement, il faut quand même payer des impôts, on paye ses PV par Internet, et les gens qui n'ont pas Internet aujourd'hui galèrent. De la même façon qu'on a l'IA, moi j'ai mis ma maman qui a 67 ans, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai mis sur ChatGPT pour qu'elle puisse rédiger des courriers, pour qu'elle puisse vérifier des informations avec les connecteurs web. Aujourd'hui, l'IA commence à être absolument partout, dans tous les métiers, que ce soit les métiers créatifs, les métiers de développeurs, les métiers de rédacteurs, partout, partout, partout. Ceux qui ne prennent pas le tournant de l'IA, pour les développeurs en particulier, seront mis de côté, clairement. Donc, qu'on soit développeur senior ou junior, et encore plus probablement quand on est junior, oui, aller regarder ce que font les IA. Mais par contre, et là encore, finalement, quand même pas mal de points communs avec Maxime. Je pensais que ce podcast tournerait en octogone et qu'on se taperait dessus. Mais ça a été. Notamment, on est absolument d'accord sur le fait qu'il ne faut pas laisser l'IA écrire tout votre code et qu'il faut comprendre, de un, comment est-ce que marche un ordinateur. Je ne vous demande pas d'aller faire de l'assembleur, puisque je pense que Maxime, en école d'ingénieur, moi aussi, on en a fait et on en a bavé. Par contre, comprenez comment marche une structure, comprenez qu'est-ce que c'est qu'un langage compilé, qu'est-ce que c'est qu'un langage interprété. Essayez de comprendre, ne serait-ce que comment marche un LLM, un Large Language Model, sur le modèle de tokenisation, sur le modèle statistique. En fait, je pense que le boulot de développeur, c'est un boulot de compréhension. C'est-à-dire que si tu sais ce que tu fais, si tu sais où tu veux aller, d'ailleurs, tu peux le demander à l'IA et l'IA peut t'aider à aller dans la direction que tu veux. Par contre, ne laisse pas l'IA te donner la direction que tu veux.
Eh bien, merci à vous deux pour ce débat qui était intéressant. J'espère que ça aura répondu à certaines des questions de nos auditeurs. Je mettrai un lien vers le site de Purple Giraffe et vers celui de Clément dans la description si vous voulez en savoir plus sur leur travail. Maxime, merci d'être passé, à bientôt.
Merci beaucoup, merci à toi Félix, à bientôt.
Clément, à la prochaine.
Salut, à la prochaine.
Et nous on se dit à très vite pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.